Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Donc l'émission s'appelle Regarde ailleurs. Regarde ailleurs, c'est vraiment cette envie d'élargir son regard sur soi, d'élargir son regard sur le monde à travers des expériences de vie de voyageurs, d'écrivains, de réalisateurs, de photographes. Hier, rapidement, lors d'une danse, tu me disais « Ah bah moi, je suis un peu nomade. » Et il y a quelques pays comme ça qui ont émergé dans la conversation. Et j'ai eu envie de prendre ce temps de te rencontrer et de savoir un petit peu qui tu es. Donc on va revenir un peu aux origines. Je vais te demander qui tu es, d'où tu viens. Et qu'est-ce qui fait que tu as ouvert cette porte à l'ailleurs ? À quel moment dans ta vie tu t'as été confronté pour la première fois à l'interculturalité, à la découverte, au voyage ou au mouvement ?
Bonjour Alex, merci de m'accueillir chez toi. je m'appelle Ilhan, je suis algérienne, kabyle, des montagnes de Nord d'Afrique, où j'ai grandi 17 ans de ma vie en Algérie.
Les 17 premières années, c'est ça ?
Les 17 premières années de ma vie, j'ai vécu en Algérie. En étant en Algérie, mes parents, ils étaient nomades. Même en Algérie, parce que mon père était architecte et ma mère, elle était dentiste, enfin elle est dentiste, elle suivait après. Et on a vécu, on a déménagé 54 fois jusqu'à mes 17 ans, déjà en Algérie, voilà. Et à mes 17 ans, j'ai eu mon bac et je suis venue en France pour faire mes études d'architecture et les beaux-arts. Et au bout de 2 ans, j'aimais pas l'architecture et j'ai abandonné cette idée de faire l'architecture. Et les beaux-arts, je faisais les beaux-arts de Paris aussi. Et je disais à mes parents que j'abandonnais l'architecture pour faire les beaux-arts. Bon, les parents algériens, ils m'ont dit non. Et à cette époque-là, mes parents, c'est quand même très important, notre culture algérienne. Et du coup, j'ai abandonné les deux et j'ai pris mon sac à dos. Et j'ai fait du stop jusqu'en Inde. C'est ça, c'était mon premier voyage.
Belle introduction. On va revenir un petit peu sur ce chapitre-là un peu plus tard, mais je reviens sur ton enfance. Donc 17 ans en Algérie, donc de papa et de maman algérienne, hein, c'est ça. Et tu dis nomade. Donc comment est-ce que toi, tu as vécu ça déjà enfant, d'être finalement systématiquement trimballé d'un endroit à un autre où tout était à recréer ? C'était quelque chose de naturel pour toi ? Ou est-ce qu'enfant, qu'est-ce que tu gardes de ce nomadisme de tes parents quand toi, tu étais petite fille ?
Ce que je garde, c'est que j'ai su m'adapter à les différents des écosystèmes en Algérie, parce qu'en Algérie, c'est très différent, c'est biodivers en mentalité, en culture, en religion, même voilà, le nord d'Afrique, le nord d'Algérie, le sud c'est très, c'est très musulman, c'est très fermé d'esprit, on va dire ça, très traditionnel, et du coup voilà, on s'adapte rapidement au milieu où on est, et du coup c'est ce que je garde en tout cas de mon enfance. Et ça m'a permis aussi de me détacher des gens, de ne pas s'attacher rapidement, parce que je sais dans quelques mois, quelques semaines, je peux déménager. Voilà, du coup, j'ai pas eu. Il y a du positif pour le détachement, mais aussi un négatif où j'ai pas eu des amis d'enfance. Parce que, voilà, chaque fois, je devais recréer des amitiés, quoi.
Et qu'est-ce qui fait qu'à 17 ans, tu fasses le choix de venir en France ? C'était une volonté de tes parents ou c'est toi qui voulais vivre autre chose que l'Algérie et t'as choisi de venir en France ?
Ah, bah, tout simplement, je voulais être libre. Voilà. C'est la liberté qui m'a poussée à partir de mon pays, malheureusement, parce que en tant que femme en Algérie, c'est très fermé d'esprit, surtout pour une femme un petit peu ouverte d'esprit dans les voyages, voire ailleurs, quoi. Et du coup, malheureusement, comme il n'y a pas d'avenir dans ce chemin-là, mes parents m'ont aidé à venir. Ils sont sacrifiés d'ailleurs beaucoup de leur vie pour qu'ils nous envoient en France pour faire les études.
Donc tes parents, ou peut-être plutôt même ton père, étaient en accord avec cette idée de voir sa fille partir toute seule en Europe pour faire ses études, quitter l'Algérie et aller vers cet espace, cette forme de liberté. Parce que tu disais qu'en Algérie, effectivement, surtout en tant que femme, c'est peut-être plus contraignant et c'est plus compliqué, hein, de voyager avec son sac à dos toute seule.
Oui, je pense que c'était difficile pour eux de voir leur fille à l'âge de 17 ans, la première de la famille qui sorte de l'extérieur du pays. Mais ils étaient contents parce que voilà, ils voyaient pas l'avenir ils voyaient pas l'avenir dans ce pays-là, malheureusement. Voilà, du coup, ils étaient contents, mais en même temps, voilà, c'est pour le bien que je dois partir, quoi.
Donc l'Algérie, c'est un pays francophone, donc j'imagine que tu parles et arabe et français.
Et kabyle.
Et quelle est l'image que tu avais avant de venir en France? Parce que la première fois que tu viens en France, c'est à 17 ans, tu étais déjà venu avant. Et quelle était l'image que tu te faisais de ce pays et comment ça s'est passé pour toi, ton arrivée ici?
C'est trop rigolo parce que je m'attendais pas à rester en France. Je voulais pas rester en France à l'époque-là. Je voulais venir en France pour voir comment ça se passe et partir au Canada ou au Japon. C'était mon projet, déjà. Avoir une base en France et puis de là, faire un transfert au Canada et au Japon. Je sais pas ce qui s'est passé. Bah, je me suis retrouvée encore. je me retrouve encore en France. Pour répondre à ta question, je m'attendais pas vraiment à grand chose parce que à cette époque-là, je me voyais déjà partir ailleurs.
Donc, tu es juste venu ici pour faire tes études à 17 ans et aujourd'hui, tu as quel âge?
Aujourd'hui, j'ai 30 ans.
Donc, 13 ans que tu es chez nous avec quand même des retours de temps en temps dans ta famille en Algérie?
Oui, non, parce que j'ai vécu un peu partout. J'ai vécu en Norvège 3 ans, j'ai vécu en Colombie, j'ai vécu au Japon 1 an et demi. Voilà, du coup, j'ai un petit peu vécu partout. En Serbie, le dernier pays où j'ai vécu, c'était en Serbie l'année dernière. J'ai vécu, 11 mois.
Alors, tu as dit deux mots que j'aimerais que tu définisses à ta manière. Hein, tu disais le mot nomade, mes parents étaient nomades, donc qu'est-ce que c'est que pour toi le nomadisme? Et tu disais aussi, j'ai quitté l'Algérie pour être libre, donc qu'est-ce que c'est que la liberté? Donc on va commencer par un des deux, peut-être le nomadisme, qu'est-ce que ça représente pour toi?
Nomadisme, pour moi, ça représente une forme de liberté, déjà. Si ça me plaît pas où je suis, où tout ce qui m'entoure me plaît pas, je pars. Mais aussi, pour moi, le nomadisme, c'est la soif de découverte. Découvrir ailleurs, découvrir d'autres cultures, découvrir d'autres mentalités, découvrir d'autres paysages, d'autres couleurs, saveurs.
Et la liberté?
Oh, la liberté. La liberté, je dirais plus être qui nous sommes déjà. C'est pour moi, c'est une liberté. Parce qu'en Algérie, on ne peut pas être qui on est. Et ça, c'est vraiment pas possible pour quelqu'un qui veut être qui il est.
Qu'est-ce que ça veut dire ne pas pouvoir être qui on est? C'est un peu terrible comme phrase de se rendre compte que dans certains pays, certaines cultures, on peut pas réellement se révéler dans son propre potentiel, c'est ça?
Oui, c'est que en Algérie, c'est un pays musulman et fermé, ce qui fait que tu dois être musulman ou rien, tu peux pas. Enfin, c'est juste, voilà. Et comme dès mon jeune âge, j'étais pas en accord avec les dogmes, les religions monothéistes, ce qui fait que je me voyais comme quelqu'un de, je sais pas comment on appelle ça en français, mais quelqu'un de pas normal, quoi. Et du coup, j'ai eu vraiment des soucis en étant là-bas, même avant 17 ans. Et des gros soucis.
Mais je veux bien qu'on revienne sur cette partie-là, parce qu'effectivement, donc, tu es né en Algérie, de culture musulmane. Mm-hmm. Tu me parles du Japon, là-bas c'est le shintoïsme ou le bouddhisme. Tu me parles de l'Inde, c'est l'hindouisme. Tu es en Amérique du Sud, où là-bas c'est encore des autres croyances, soit chrétiennes, soit plutôt liées au peuple racine. Quel est ton lien aujourd'hui avec la religion, toi qui as quand même grandi dans un climat où la religion était très présente?
Moi, je dirais aujourd'hui que je crois en moi, c'est ça ma religion, je crois à l'unité. Pour moi, ma religion, c'est tout est un. On vient tous de la terre, de l'univers, qu'on est tous connectés. Et je ne crois pas à ces dogmes, à tout ce qui est dogmatique, je ne sais pas si c'est dit ça. J'ai aucun lien avec... j'accepte les autres qui sont dans leur religion. Je suis heureux pour eux de croire en ce qu'on sait, mais moi... je n'y crois pas. Voilà.
Ce qui est, après, ça c'est ma pensée ou quelque chose que j'observe, que je trouve d'ailleurs un peu triste, c'est que souvent, au nom des religions, on observe beaucoup de conflits, ouais. Et parfois même des guerres, alors que le message prôné par chacune d'entre elles, c'est souvent le même, c'est l'amour.
Oui, je suis complètement d'accord. Oui.
moi, à titre personnel, hein, en voyageant, effectivement, de t'imprégner comme ça dans différentes cultures, où finalement tu te rends compte que chacun a ses croyances. Hein, et je trouve tellement dommage qu'on essaie de les imposer aux uns et aux autres, alors qu'en fait, il suffirait de, bah, d'observer ou d'accepter les croyances de l'un et de l'autre. Mais souvent, on a ce besoin de pousser sa croyance dans l'esprit de l'autre pour avoir peut-être l'impression d'avoir raison.
Oui, je suis complètement d'accord. Oui, moi, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de voir des personnes heureuses dans leur pratique, dans leur religion. Chacun est libre de croire en ce, que, en ce qui le rend heureux. Voilà. Parce que le plus important, c'est de rayonner. Et quand on rayonne, on a une énergie qu'on dégage, qui est la joie, le bonheur, l'amour. Ce qui fait que, soit si tu es musulman ou chrétien ou bouddhiste, mais voilà, il faut juste y croire et ne pas imposer ta croyance à l'autre. Parce que peut-être toi, tu crois, il est musulman, je suis musulman, si quelqu'un est musulman et l'autre est chrétien, le plus important, c'est qu'on soit heureux, qu'on soit différent, on est tous différents.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ilhan, donc Ilhan avec moi dans cette émission Regarde ailleurs. Donc d'origine algérienne, assez jeune, tu as pris la route pour venir ici en Europe pour pouvoir étudier dans un premier temps. Et tu disais que ton premier grand voyage, ça a été un voyage en stop. Donc là, tu pars en stop de France pour aller en Inde. C'est un projet complètement fou.
Oui, parce qu'à l'époque, j'avais pas... Comment te dire ? À l'époque, quand j'ai fini mes... enfin, j'ai quitté mes études, j'avais un... mon ex-copain qui habitait en Suisse. C'était ça le projet, c'est d'aller en Suisse, revoir mon ex-copain. Et sur le chemin retour de la Suisse en France, j'ai rencontré des gens. Voilà. Mon but, c'était de rentrer en France. Et je me suis retrouvée 9 mois après en Inde, ce qui fait que ce n'était pas programmé, voilà, l'aller en Inde. Et c'est des rencontres sur mon chemin qui... c'est un cheminement jusqu'en Inde en rencontrant des belles âmes avec qui j'ai voyagé, voilà.
Donc tu as fait du stop à plusieurs, tu n'étais pas seule avec ton sac sur les routes du monde. Comment ça s'est passé ? Parle-nous un peu de l'itinéraire, parce que l'Inde... c'est loin.
Oui, c'est très loin. non, j'étais seule, mais c'est... j'avais pas un objectif précis d'aller en Inde. C'est, voilà, je rencontre des gens sur mon chemin qui me proposaient, voilà, il y a l'Italie à côté, il y a ça à voir, il y a, voilà, et je me dis, ok, d'accord, j'ai rien à faire, je viens, voilà. Je suis curieuse de voir comment ça se passe là-bas. Arrivée là-bas, je rencontre des gens qui me conseillent d'aller là-bas, et voilà. Et 9 mois après... je me suis retrouvée en Inde, comme ça.
Tu as fait quoi en Inde ? Tu y restais combien de temps ? Est-ce que tu peux nous reparler un peu de cette époque ? Parce que l'Inde, pour ceux qui connaissent, c'est quand même un pays qui... je pense qu'il y a des pays comme ça, très décalés, hein, où on sent vraiment une profonde différence culturelle. Mm-hmm. Tu parlais du Japon. Le Japon, ça fait aussi un peu cet effet-là, le côté insulaire. Ouais. Quand on arrive au Japon, on est forcément touché par ce qu'on va y vivre. Je pense que l'Inde, c'est pareil. Il se passe quelque chose en soi. Ouais. L'Italie, ok, on peut y aller, on peut en manger des spaghettis et des pizzas, ça va être très chouette, il va y avoir un beau voyage. Mais partir en Inde ou partir au Japon, c'est encore une autre dimension.
Oui, je suis complètement d'accord. C'était, pour moi, une Algérienne avec déjà... arriver en Europe à mes 17 ans, c'était comme un choc culturel. Parce que voilà, on regardait la télé, mais le vivre, c'est autre chose. Et voyager en Europe de mes 17 à 20 ans, c'est comme ça reste l'Europe. Voilà, la Bulgarie, quelque part en Europe, en Allemagne, c'est pareil. Mais en arrivant en Inde, ça m'a vraiment mis. Voilà, c'était très différent, je vais dire ça. Mais très coloré. Très inspirant, voilà. Et à ce moment-là, j'ai découvert le monde de la spiritualité. En arrivant là-bas, j'ai rencontré vraiment des très très belles âmes qui m'ont guidée sur un ashram. Et j'ai passé 2 mois dans un ashram pour apprendre des pratiques du yoga, manger en silence, des méditations, Voilà, j'ai passé 2 mois là-bas et puis ça, je me suis nourrie de l'énergie du lieu, des personnes qui étaient autour de moi, de la nourriture, de la simplicité, parce que c'est très très simple. Et ça m'a rappelé mes origines en Algérie, parce que quand même, ça reste l'Afrique, c'est très simple par rapport à l'Europe. Et puis voilà, c'était quand même choquant, enfin choquant en bon terme.
Et pendant ce temps, tes parents restent en Algérie et voient leur petite fille partir et parcourir le monde. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu comment vivent tes parents ta réalité très différente de la tienne là-bas en Algérie et de la leur?
Ah oui, ça c'est quand même comment te dire, ils n'avaient pas le choix. Ils n'avaient pas le choix que de me suivre dans mes trajets parce que ils connaissaient à peu près comment j'étais. Mais je t'avoue que ma mère, elle était stressée pendant tout le trajet. Et sachant que moi, j'appelle mes parents deux, trois fois par jour. Oui, c'est une tradition pour moi. J'appelle toujours mes parents. Je prends des nouvelles, même pour dire bonjour, bonsoir, bonne nuit. Voilà, ça va. Et du coup, sur le voyage, je les appelais aussi pour dire tout va bien, t'inquiète pas, je suis avec telle et telle personne qui m'accueille chez eux, j'ai à manger. Mais quand même, ça reste quand même très très compliqué de ce côté-là, parce que voilà, chez nous, ça n'existe pas ce mode de vie, de voilà, voyager, de prendre juste le sac à dos. Femme, déjà femme, faire en tant que femme, parce que déjà en tant qu'homme, ça n'existe pas. Mais en tant que femme, c'est autre chose.
Mais c'est là où tu aurais un vrai rôle à jouer auprès des femmes algériennes, hein, parce que toi, tu as réussi à t'émanciper en suivant finalement tes rêves, hein, qui étaient ceux de liberté et de nomadisme, comme tu disais. Est-ce que tu as l'occasion de retourner en Algérie et de partager ton expérience auprès des femmes qui peut-être, elles aussi, aimeraient pouvoir vivre cette réalité, mais peut-être n'osent pas ou peut-être se sentent limitées par des peurs ou des croyances?
Bah écoute, j'ai jamais pensé. Enfin, j'y ai pensé à un moment donné, mais je pense que c'est pas mon rôle à moi. Je laisse cette partie à quelqu'un d'autre qui a le courage d'affronter ça, parce que c'est très difficile. Franchement, à l'Algérie, c'est très très compliqué, parce que même c'est très compliqué de sortir de la culture et du je sais pas, ouais, culture algérienne. Vraiment, c'est très très dur. Même pour les femmes qui veulent le faire, c'est voilà, il y a un poids énorme côté famille, côté moi je remercie, merci mes parents, plein de gratitude parce que mes parents déjà en vivant en Algérie, tous mes amis à l'époque quand j'habitais en Algérie, ils me disaient waouh, tes parents vous habitez à l'européenne, tu vois, parce qu'on avait des amis garçons qui venaient à la maison. Ça, chez nous, ça n'existe pas, des amis garçons, tu peux pas, à l'époque, enfin, je sais pas maintenant, mais voilà, ma famille, on était déjà un peu décalés par rapport à la vie quotidienne d'Algérie, quoi. Ce qui fait que mes parents, ils comprennent après pourquoi je suis devenue comme je suis aujourd'hui, parce que c'est grâce à eux, je leur dis, c'est vous qui m'ont appris à faire ça, à voyager comme ça, à être qui je suis. Et mais sinon, pour la femme algérienne, c'est vraiment très compliqué parce que leur famille, peut-être, ils sont pas encore ouverts d'esprit sur ce côté-là. Du coup, il y aura des conséquences énormes. Leur côté familial, ils peuvent plus leur parler. Ils peuvent. C'est très compliqué. Et du coup, je laisse ce travail à quelqu'un qui a plus de courage que moi, parce que ça, c'est. C'est compliqué pour moi parce que j'ai beaucoup d'émotions. C'est mon pays. Du coup, ça me fait encore plus de la peine si je peux le faire pour un autre pays indien. Je suis détachée par rapport à ça, mais comme ça reste mon pays où j'ai dû partir, voilà. J'ai dû quitter mon pays pour ma liberté, pour être qui je suis. Du coup, pour moi, c'est vraiment, ça me rend vraiment triste aujourd'hui. Enfin, je me détache de la tristesse, mais. Voilà, parce que quand même, à l'âge de 17 ans, je suis partie de mon pays parce que voilà, je ne peux pas être libre de qui je suis. Et...
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Tu ressens une pression, peut-être sociale ou familiale encore aujourd'hui? Est-ce que tes parents attendent de toi que tu te maries avec un musulman ou pas du tout? Ils sont complètement, ils ont complètement lâché l'être que tu étais.
C'est trop drôle. Aujourd'hui, c'est très compliqué. Je dirais, mes parents, en tout cas ma mère et mon père, je leur cache rien. Ils savent tout de moi. Je pense que je leur ai mis, je vais dire, des claques, hein. Parce que, voilà, j'ai la même la dernière fois, mon ex-petite amie, on est parti en Algérie, je l'ai amenée chez moi, on a dormi dans, voilà, dans la même chambre. Chez nous, ça n'existe pas, ça. Pour te dire, j'ai vraiment dépassé les limites avec mes parents en étant algérienne. Du coup, je pense que, voilà, aujourd'hui, ils savent comment je fonctionne, que ce que j'ai compris de mes parents, en tout cas de ma mère et de mon père, c'est qu'ils m'aiment inconditionnellement. Voilà, c'est un amour vraiment inconditionnel. Parce que malgré leur culture très fermée, parce que mes parents, ils n'ont pas beaucoup voyagé à part en Algérie, ils ont accepté comment je suis. Là, avec ma mentalité, mais tu vois, avec mes tatouages, mes piercings, quand même, c'est très très différent d'un être algérien typique qui a grandi là-bas, parce que peut-être que algériens vivant ici, grandit ici, c'est différent. Voilà, du coup, je remercie beaucoup mes parents d'être comment ils sont, parce que c'est très enrichissant aujourd'hui.
J'entends derrière ça une très belle leçon de vie pour tous les parents, c'est de soutenir leurs enfants, quel que soit leur choix. Hein, toi, tu as eu cette chance d'avoir des parents qui t'ont soutenu, même si ta construction enfant et adolescente et adulte, jeune adulte, a été différente du modèle qu'ils auraient peut-être aimé voir. Donc ça, je trouve que c'est superbe, tu parles d'amour inconditionnel. Bravo à tes parents d'avoir continué à t'aimer et à te soutenir, quelle que soit la direction, les choix que tu fasses.
Je suis très heureuse pour ça. Je les remercie matin et soir. Je le dis pas souvent parce que chez nous, on dit pas beaucoup je t'aime et merci. Voilà, c'est une culture très pudique, je t'avoue. Mais à chaque fois que je le fais, voilà, ça reste quand même ça. Ça fait plaisir, mais il faut pas le dire tout le temps.
Allez, ce que je te propose, c'est de dire en kabyle un message à tes parents qui peut-être entendront cette émission. Donc t'as le droit de parler kabyle pendant 30 secondes pour leur donner un message. Merci, shukran. Ok, donc Ilhan. Donc Ilhan, je vais questionner maintenant la partie voyage et mouvement, nomadisme. Donc cette notion du mouvement qui t'habite. Est-ce que des fois tu la questionnes? Est-ce que des fois tu te dis maintenant c'est peut-être le moment peut-être de trouver un peu plus de stabilité ou d'ancrage? Ou où est-ce que tu en es aujourd'hui dans cette dynamique de l'ailleurs, du mouvement et du voyage?
Écoute, aujourd'hui, c'est trop drôle parce qu'aujourd'hui je me définis comme une nomade déjà stable, parce que j'ai rencontré une très très belle âme aujourd'hui avec qui je me vois faire un long chemin, un très très long chemin. Il s'appelle Marianne, qui habite pas très loin d'ici, en Ariège, à Montbrun-Bocage, dans un écolieu très très agréable. Je t'invite de venir nous rendre visite. C'est un écolieu où il se passe beaucoup de choses, comme Sainte-Camelle. Jean Blanc, voilà. Et du coup, je m'installe en Ariège, voilà. Pour l'instant, on va acheter un terrain, construire une maison en terre paille. On a déjà des projets d'installation, mais au fond de moi, j'ai peur de m'en lasser de la stabilité et de vouloir voyager parce que voilà, j'ai une âme voyageuse. Ce qui fait que si un jour j'en ai marre, bah écoute, je prends un train. Et je pars en Éthiopie ou au Kenya ou quelque part dans le monde pour passer quelques mois et revenir et continuer.
Voyager a un coût aussi, hein, quand tu parles de toutes tes destinations, notamment le Japon ou sûrement d'autres aussi. Comment est-ce que tu fais, toi, pour pouvoir voyager et rendre le voyage économiquement possible?
Avant, je travaillais. Là, depuis juin, je ne travaille plus. Du coup, quand je suis venue en France, j'ai fait des études. J'ai arrêté l'architecture et les beaux-arts, mais en rentrant en France après l'Inde, j'ai fait l'école centrale de Lille en ingénieur en génie électrique pour le développement durable. Du coup, après 5 ans d'ingénierie, j'ai commencé à travailler en tant qu'ingénieur BE d'études solaires. Du coup, j'ai développé des parcs solaires, éoliens, stockage. Et à un moment donné, j'étais statique à Montpellier, à Vercanne. Et après, j'ai un problème de santé. Merci l'hernie discale, parce que grâce à ça, j'ai eu du télétravail. Et du coup, j'ai télétravaillé pendant 4 ans, partout dans le monde. Et du coup, j'étais payée, j'étais freelance, et je voyageais et je travaillais de là où j'étais. Et même, j'ai télétravaillé, j'ai fait une réunion de Kilimandjaro, s'il te plaît. Voilà, c'était très très chouette. J'ai même des photos très agréables au sommet de 5000 mètres à faire une réunion.
Excellent, vive le télétravail et le digital nomadisme.
Aho.
J'entends plein de pays, Japon, Inde, Éthiopie, Kenya ou Tanzanie, je ne sais pas de quel côté, non, Tanzanie, Kenya, le Kilimanjaro, Amérique du Sud. Comment est-ce que tu choisis tes destinations et pourquoi le Japon aussi? C'est surprenant que tu avais déjà, en venant en France, cette envie d'aller au Japon et au Canada, tu disais.
Le Japon, c'est très simple. Quand j'étais jeune, mon père nous a fait découvrir le monde des Ghibli. Et rapidement, à Ghibli, la chaîne manga, avec plein d'animés dedans, et je me suis baignée dans le monde d'animés, des mangas, ce qui fait que, voilà, petit à petit, je me suis enseignée comment ça se passe là-bas, la culture, la nourriture, et voilà, j'ai apprécié. Et le Canada, c'est vaste, c'est large, c'est grand. Il fait froid, la forêt, les montagnes, la neige, et loin d'Algérie. Du coup, c'est les deux extrêmes.
Loin de l'Algérie. Le voyage, qu'est-ce que c'est que pour toi et qu'est-ce que ça t'a apporté?
D'être humble, l'unité. Qu'est-ce qui m'a apporté? La simplicité, d'accepter la différence.
Je ne vais pas te faire énumérer les pays dans lesquels tu étais, j'ai compris qu'il y en a eu beaucoup. Quelle est l'étincelle, l'élément déclencheur qui fait que tu ailles au Kilimandjaro, que tu ailles en Colombie, que tu ailles en Inde, que tu ailles au Japon, que tu ailles en Éthiopie?
Je t'avoue, je programme pas à l'avance mes voyages. Je suis quelqu'un, je réserve à la dernière minute. C'est plus les rencontres que je fais, c'est des personnes, c'est des connexions avec des belles âmes qui me conseillent, qui me guident sur des pays où je sais que j'allais me sentir bien. Aujourd'hui, je pense avec ma conscience, je dirais, j'ai juste suivi mon âme, la soif de conscience de mon âme, qui sait où aller pour élever mon âme de plus en plus. Je te dis un exemple, l'Éthiopie, je suis partie à une époque, j'aime beaucoup le reggae, du coup Rastafari. Et du coup, il y a une grande communauté chachamanée de Rasta, et j'ai fait un stage en Jamaïque. J'ai découvert que les Rastafari, ça vient de l'Éthiopie. Du coup, voilà comment je chemine. C'est juste des informations qui me tiennent. Ah, voilà, Jamaïque. J'ai dit, OK, je dois y aller en Éthiopie pour encore nourrir plus d'informations. Voilà, Jamaïque, quand j'étais en Éthiopie, j'ai dit, ah, Kenya, je vais faire le Kilimandjaro. Voilà, c'est... Les gens me diront que je plane ou je suis dans les ciels. Mais voilà, c'est juste que moi, je me laisse guider par moi-même, en fait. Je ne programme pas grand-chose, mais je suis quand même organisée.
Et tu fais tes voyages souvent seule ou tu les fais en couple?
En couple, ça a toujours été compliqué pour moi. Ça, c'est toujours mal fini, mais généralement, je voyage toute seule. Je suis solo dans mes voyages. Mais je rencontre beaucoup de gens, du coup. Souvent, je suis avec du monde. Voilà, mais je suis toute seule.
Et qu'est-ce que tu peux dire alors à toutes ces femmes qui ont peut-être envie aussi de se lancer, de voyager seules, mais qui ont peut-être peur de l'ailleurs, peur de ne pas connaître, peur de sortir ta zone de confort? Donc toi, tu le fais en plus avec une culture qui, comme je l'ai entendu, assez oppressante. Donc toi, femme algérienne, seule, voyager comme ça, qu'est-ce que tu pourrais donner ou conseiller à d'autres femmes qui ont aussi envie de se lancer?
Aujourd'hui, je dirais ne pas alimenter cette peur, parce que quand même, c'est une énergie. Une énergie qu'on alimente, d'oser, parce que pour moi aujourd'hui, je vois pas la différence entre toi, homme, et moi, femme, parce que pour moi, toi, c'est une extension de moi, tout est un, toi, c'est moi, et moi, c'est toi. Du coup, il n'y a pas de différence vraiment entre la femme et l'homme, et d'oser, de dire que voilà, je peux le faire, toi, tu le fais, moi je peux le faire. C'est pas parce que toi t'es un homme, tu peux voyager, et moi je peux pas voyager. Et du coup, de partir avec une énergie positive et de ne pas avoir peur de le faire. Je pense que il faut avoir du courage. Voilà, c'est plus alimenter le courage de dire que je peux le faire. En fait, je pense aujourd'hui, comment on dit ça, accro. Voilà, c'est le mot accro au voyage, parce que quand tu commences ce dynamisme de voyage et des rencontres, bah, ça te met dans une euphorie, je sais pas, dans une énergie où tout s'aligne et les gens viendront t'aider. C'est magique. Le voyage, c'est de la magie. Voilà. Si tu veux faire de la magie, voyage, je dirais. Parce que t'as le smile, c'est différent, tu rencontres des personnes. Je sais pas, par exemple, en faisant du stop, tu rencontres des personnes que, tu vois, qui vont te raconter leur vie au bout de 30 minutes. Enfin, après, tu ne le reverras plus. C'est magique, quoi. C'est formidable. Moi, j'adore. Je conseille à tout le monde de le faire.
Je vais rester là-dessus. Donc, si tu veux de la magie, voyage. Merci, merci à toi, Ilham.
Ilham, ça veut dire joli en kabyle en plus. De rien, avec plaisir.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.